Le journal, présenté par Stanislas Vazak.
Bonsoir. La Turquie menace l'Europe d'une nouvelle crise migratoire. Le président turc Erdogan ne décolère pas après l'annulation des meetings de ses ministres aux Pays-Bas. Nous verrons dans ce journal qu'Erdogan a besoin du vote de la diaspora turque pour gagner son référendum dans un mois. Nouveau procès pour Carlos à Paris. Le terroriste pro-palestinien est jugé cette fois pour l'attentat du drugstore Publicis en 1974. Le compte-rendu d'audience de Florence Turm. La page politique de ce journal, nous verrons avec Stéphane Robert que François Fillon essaye de faire campagne comme si de rien n'était. Et puis un invité dans cette édition, Damien Lempereur, porte-parole de Nicolas Dupont-Aignan. La Turquie n'en finit plus de menacer les Pays-Bas en particulier et l'Europe en général. Après les événements du week-end dernier à Rotterdam, le gouvernement néerlandais, rappelons-le, avait empêché de ministres turcs de tenir meeting en faveur de Recep Tayyip Erdogan. Le président turc n'avait pas hésité à dénoncer des pratiques nazies. Aujourd'hui, c'est son ministre des Affaires européennes qui menace de remettre en cause l'accord UE-Turquie sur les flux migratoires, ce qui signifie que des milliers de migrants pourraient être à nouveau autorisés à rejoindre l'Union européenne depuis le territoire turc. Alors question ce soir, pourquoi Erdogan tient-il à tout prix à faire campagne en Europe? C'est que le maître d'Ankara veut gagner le référendum du 16 avril prochain qui lui permettrait de renforcer son pouvoir et le vote de la diaspora turque est indispensable pour obtenir ce succès. Les explications d'Anne Andloer à Istanbul.
Si Recep Tayyip Erdogan tient tellement à mener campagne en Europe auprès de la diaspora turque pour son régime présidentiel, c'est qu'il attend depuis des années ce renforcement de ses pouvoirs. En cas de victoire du oui, le chef de l'État deviendra chef de l'exécutif. Il pourra nommer et révoquer ses ministres et vice-présidents sans contrôle parlementaire, gouverner par décret, dissoudre l'Assemblée, décider de presque toutes les nominations dans la haute magistrature et la haute fonction publique, et décréter l'état d'urgence quasiment lorsque bon lui semble. Or, à quelques semaines du référendum, la bataille s'annonce plus serrée que le président ne l'espérait. D'où ce discours très dur à l'égard de l'Europe, dans l'espoir d'exciter la fibre nationaliste, aussi bien en Turquie que dans la diaspora. Près de 3 millions de personnes sont inscrites sur les listes électorales des Turcs de l'étranger, soit environ 5% du corps électoral. Or, c'est dans les pays où ils sont les plus nombreux, dans l'ordre l'Allemagne, la France et les Pays-Bas, que les électeurs turcs soutiennent le plus Recep Tayyip Erdogan. Aux dernières législatives, en novembre 2015, le parti du président avait reçu entre 60 et 70% des suffrages dans ces pays, contre 49,5% en Turquie même. Ces Turcs de l'étranger sont pour la plupart des descendants des immigrés des années 1960, issus d'un milieu plutôt rural et conservateur qui forme la base électorale de Recep Tayyip Erdogan. Il est donc capital pour le chef de l'État de mobiliser ses électeurs de l'étranger, qui ont tendance à beaucoup moins se rendre aux urnes que leurs compatriotes vivant en Turquie.
Anne Andloer, correspondante à Istanbul. On apprend ce soir que la Turquie refuse le retour de l'ambassadeur néerlandais à Ankara. De leur côté, les Pays-Bas n'ont pas du tout l'intention de s'excuser pour les meetings annulés. Les autorités néerlandaises recommandent même à leurs ressortissants présents en Turquie de rester vigilants et d'éviter les rassemblements ou les endroits fréquentés. Les indépendantistes écossais veulent un nouveau référendum pour permettre à l'Écosse de quitter le Royaume-Uni. La première ministre écossaise, Nicola Sturgeon, l'a annoncé aujourd'hui. Son argumentation repose sur un simple constat. Les Écossais ont majoritairement voté contre le Brexit. Ils veulent donc rester au sein de l'Union européenne, mais en tant que nation indépendante. On retrouve à Londres l'un de nos correspondants, Eric Albert.
9 mois après le vote des Britanniques en faveur du Brexit, Nicola Sturgeon s'est finalement décidé. La première ministre écossaise va demander l'organisation d'un nouveau référendum pour l'indépendance de l'Écosse. Elle souhaite que le scrutin se tienne d'ici 18 mois à 2 ans, entre l'automne 2018 et le printemps 2019, et ce serait donc juste avant que le Brexit ne rentre officiellement en vigueur. Il y a seulement 2 ans et demi, les Écossais ont bien sûr rejeté l'indépendance lors d'un premier référendum, mais depuis le Brexit a changé la donne. Les Britanniques ont voté pour sortir de l'Union européenne, mais les Écossais, eux, ont choisi d'y rester à 62%. Nicola Sturgeon estime donc qu'il serait injuste que les Écossais subissent le Brexit malgré eux, et c'est pour ça qu'elle veut organiser ce deuxième référendum. Il reste cependant encore d'importants obstacles à franchir. D'abord, Londres peut s'opposer à l'organisation de ce référendum, même si ça semble politiquement assez difficile. Ensuite, les sondages sont serrés, mais ils indiquent que les Écossais restent majoritairement opposés à l'indépendance.
Eric Albert, merci. À Londres, le Brexit est entré dans une nouvelle phase. Ce soir, les députés britanniques ont voté à une large majorité le projet de loi qui autorise le gouvernement à déclencher la procédure de sortie de l'Union européenne. Ils ont rejeté deux amendements destinés à ralentir le processus. Carlos, à nouveau devant la justice française. L'ancien terroriste est jugé cette fois pour l'attentat du drugstore Publicis à Paris. Deux morts et une dizaine de blessés le 15 septembre 1974. Le procès s'est ouvert ce matin à Paris devant une cour d'assises spéciale. Carlos, de son vrai nom Illich Ramirez Sanchez, s'est présenté en révolutionnaire de la cause palestinienne. Né au Venezuela il y a 67 ans, il a déjà été condamné deux fois à perpétuité pour des attentats commis sur le sol français. Florence Turme, cette première journée a été consacrée à l'examen de la personnalité de Carlos.
Je suis née dans un milieu social de petits bourgeois aisés. Carlos a apporté son livre, L'Islam révolutionnaire, et il commence à tourner les pages de sa vie. Illich Ramirez Sanchez est l'aîné de trois garçons. Les deux autres se prénomment Lénine et Vladimir, deux grands ingénieurs au Venezuela. Une mère toujours vivante, qu'il admire, mais c'est de son père qu'il est le plus fier. Quand j'étais petit, raconte-t-il, les policiers se mettaient au garde-à-vous devant lui. Un père avocat, aux convictions marxistes-léninistes, procédurier exceptionnel, qui n'a jamais perdu une seule affaire. Ses mains sortent du box de verre, mais Carlos reste prisonnier de son propre monde, face à des magistrats de plus en plus perplexes, devant une logorée souvent incompréhensible. Mais cet interminable récit ne permettra pas pour autant de comprendre le cheminement personnel de l'adolescent qui adhère à 14 ans à la jeunesse communiste révolutionnaire dans son pays. Carlos perd son auditoire dans ses voyages, Londres, Moscou, la Jordanie, Beyrouth, le Soudan, où il est finalement arrêté. Reste un homme sûr de lui, personnalité narcissique. Je suis fier de mon passé, de mon présent et peut-être de mon futur. Dans la famille, on vit vieux et la lutte va continuer. Le président risque une dernière question. Quand vous vous retournez sur votre existence, vous avez des regrets? La réponse tombe sans l'once d'une ironie. Je regrette, à cause de mon bon cœur, de ne pas avoir tué des gens que j'aurais dû tuer.
Le compte-rendu d'audience de Florence Turme. 4 mois de prison avec sursis pour l'ancienne responsable d'une structure de déradicalisation en Seine-Saint-Denis. Sonia Imloul a été reconnue coupable de détournement de subventions et travail dissimulé. Le tribunal correctionnel de Paris l'accuse d'avoir détourné 60 000 euros. La campagne présidentielle, François Fillon a précisé son programme ce matin à 2 jours de sa convocation chez les juges d'instruction. Le candidat de la droite a effectué quelques retouches. Les baisses de charges concerneront d'abord les petits salaires et le taux intermédiaire de la TVA restera finalement inchangé. En revanche, François Fillon ne touche pas à ces deux mesures principales, la fin des 35 heures et la suppression de 500 000 emplois publics. En fait, Stéphane Robert, François Fillon fait comme si les affaires n'existaient pas.
Depuis le début, François Fillon refuse de se justifier, de céder aux demandes d'explications qui ressurgissent à chaque nouvelle actualité concernant ses troublantes rémunérations et facturations. Il a employé et fait employer son épouse à des salaires beaucoup plus importants que ce qui se pratique habituellement. Et alors? C'était légal, se justifie-t-il. Ce sont des amis qui règlent pour lui les factures de ses costumes hors de prix. Et alors? Répond-il encore. Ça relève de sa vie privée. À chaque fois, il élude François Fillon, comme s'il refusait de s'apesantir sur ce qui lui est reproché, lui permettait d'engommer l'impact dans l'opinion. Et ce qu'il espère donc, c'est revenir à son projet, au débat de fond. Et on va y revenir, immanquablement. À partir de la semaine prochaine, le Conseil constitutionnel aura validé les candidatures à la présidentielle. Et à partir de la semaine prochaine, vont commencer les débats télévisés. C'est à cette occasion que vont revenir les questions de fond, plus que les questions de légitimité des candidatures. Et lors des débats télévisés pour la primaire, Fillon a montré combien, sur ce terrain-là, il était habile. À ce moment-là, face à lui, face à son projet qu'il martèle depuis des mois, comment les autres candidats, Benoît Hamon, Emmanuel Macron et même Marine Le Pen, réussiront-ils à défendre et à faire valoir le leur? Fillon réussira-t-il à faire oublier les affaires judiciaires qui perturbent sa campagne depuis fin janvier, ou tout du moins à en atténuer l'impact sur les intentions de vote? En tout cas, depuis un mois et demi, les différentes enquêtes montrent qu'il conserve un socle important d'électeurs, et il ne faut pas sous-estimer, disent les sondeurs, la forte aspiration de la droite à l'alternance.
Stéphane Robert, merci. Invité de ce journal, Damien Lempereur, l'un des porte-parole de Nicolas Dupont-Aignan, le candidat de Debout la France. Bonsoir.
Bonsoir.
Damien Lempereur, c'est aussi votre avis. Il faut revenir au programme des candidats dans cette campagne présidentielle.
Revenir, je ne sais pas. Il faudrait peut-être y venir, parce que j'ai l'impression que malheureusement, on a beaucoup parlé des affaires, de sujets parfois très accessoires ou très graves, en raison du comportement de tel ou tel candidat, et on n'a pas du tout parlé du fond. Il reste, je crois, à peine 40 jours. Vous imaginez, avant une élection présidentielle qui va décider quand même de l'avenir de notre pays, à un moment donné où rarement la situation n'a été aussi compliquée.
Alors c'est ce qu'essaye de faire François Fillon. Qu'est-ce que vous pensez de l'attitude de François Fillon ?
Il aura du mal, malheureusement. Imaginez-le aujourd'hui nous expliquer qu'il faut faire des efforts, la valeur travail, et on ne peut que le déplorer, parce que au moment où on allait enfin pouvoir se débarrasser des socialistes qui ont quand même abîmé, notamment d'un point de vue économique, et pas que, hein, vous parliez de la Turquie juste avant, le pays, on a finalement une droite ou un mouvement à droite qui n'est plus capable même de se faire entendre sur des propositions de bon sens économique. Malheureusement, François Fillon n'est plus en mesure de porter un programme économique intelligent pour les PME, les artisans, les classes populaires, et c'est l'intérêt de la candidature de Nicolas Dupont-Aignan, qui lui a une légitimité, une honnêteté qui lui permet encore de porter ce discours, fort heureusement.
Mais pour vous, François Fillon n'est plus légitime pour porter le programme de son camp dans cette campagne ?
Il fera ce qu'il peut, il est face à ses contradictions, il est déjà face à une contradiction majeure qui est qu'il a été Premier ministre malgré tout pendant 5 ans et qu'il a fait à peu près tout le contraire de ce qu'il promet aujourd'hui. Quand même, nous, à Debout la France, on est obligé de le rappeler. Et puis c'est vrai que maintenant, il est quand même très très affaibli. Alors venons sur le fond, parlons des programmes. Les débats télévisés seront très importants et j'espère que Nicolas Dupont-Aignan aura justement l'occasion de s'expliquer avec François Fillon, point par point, pour montrer comment, parfois, certaines mesures de bon sens que prétend défendre François Fillon seraient mieux mises en œuvre si c'était Debout la France qui les portait.
Alors justement, votre candidat Nicolas Dupont-Aignan est aux alentours de 3% dans les sondages. Comment vous expliquez que votre candidat peine à démarrer dans cette campagne ?
Alors déjà, 3-4%, c'est quand même 2 millions de personnes. Bon, 2 millions d'auditeurs sur une radio, c'est pas mal. Et
tout oui, ça mais pour... ça ne vous qualifie pas pour le deuxième tour.
Non, mais c'est pas rien. Et c'est vrai qu'on a quand même réussi en quelques années seulement, parce que Debout la France, c'est un parti très jeune, 8 ans, à rassembler voilà, une famille gaulliste qui était un peu perdue, puisque l'UMP était parti vers le centre européiste mondialiste. Vous savez, là, je préparais le référé contre TF1 et le CSA.
Pour oui, participer. Parce que vous voulez que Nicolas Dupont-Aignan participe à
ce débat.
Bien sûr,
que la famille gaulliste participe le 20 mars sur TF1. Et en préparant le référé devant le Conseil d'État, jeudi, l'audience, je regardais les sondages de Trump aux États-Unis. Il était à 1% avant les débats télévisés. Tout ça pour dire quoi ? Tout ça pour dire que si vous n'avez pas la puissance financière, démesurée par exemple d'un monsieur Macron, et si vous n'avez pas l'exposition médiatique, vous savez, de TF1, des grands débats et des journaux télévisés, vous aurez de toute façon toujours du mal à passer ce plafond de verre. Aux dernières élections régionales, en Ile-de-France, on a fait près de 7%, 4% sur tout le pays. Ça, c'est des vrais scores, c'est des élections. On est dans une bonne dynamique. Les sondages, malheureusement, ça reste les sondeurs, ça reste des instituts privés qui font du business, qui vendent leurs services. Et vous savez, on a bien l'habitude maintenant à Debout la France de ne plus attacher aucune importance aux sondages. On l'a vu d'ailleurs dans la primaire. Vous nous dites qu'on est à 3-4%, mais M. Hamon, il était à 2% quand il a commencé les primaires. Fillon à 8%. Rien n'est joué.
Quel est votre positionnement politique exactement ? Puisque l'on dit que vous êtes coincé finalement entre Marine Le Pen et François Fillon. Vous êtes de droite ? Vous revendiquez cette étiquette de candidat de droite, on va dire, radicale ?
Non, on est gaulliste. Et profondément gaulliste, on est vraiment au-delà.
Mais gaulliste de droite ?
Gaulliste, vous savez, on rassemble des gens qui viennent de la gauche. On a beaucoup de chevènementistes qui nous ont rejoints. Et on se reconnaît pas toujours derrière cette étiquette un peu préfabriquée. Parce que finalement, aujourd'hui, le vrai clivage, c'est plus tellement celui entre la droite et la gauche. On a des gens qui sont dans un camp mondialiste. Monsieur Macron, Monsieur Hamon, Monsieur Fillon. Et puis on a des gens qui sont attachés...
C'est aussi ce que dit Marine Le Pen, qui parle des mondialistes et des patriotes.
Je pense qu'elle a raison sur ce point. Le clivage, il est là. Et on a des gens qui sont attachés à leur culture, à un modèle social français, à une langue, à une tradition. Il y a la façon de Marine Le Pen, et puis il y a la façon gaulliste, celle de Dupont-Aignan. Je ne pense pas qu'on soit coincé, parce que ni Monsieur Fillon, et on le voit malheureusement avec ses affaires, ne peut se prétendre du gaullisme, ni Marine Le Pen, puisqu'elle vient d'une famille qui était même, pour être très franc, carrément anti-gaulliste. Donc je pense que ce créneau gaulliste, Nicolas Dupont-Aignan l'incarne bien. Maintenant, ce qu'il faut, c'est qu'on arrive à porter ce message. Il reste que 40 jours et on va le faire de toutes nos forces.
Damien Lempereur, il y a aussi un autre candidat souverainiste dans cette campagne, François Asselineau, la surprise du scrutin de l'Union Populaire Républicaine, surprise parce qu'il a obtenu ses 500 parrainages. Quelle est la différence entre Nicolas Dupont-Aignan et François Asselineau ?
Bienvenue à François Asselineau. Ça me rappelle il y a 5-6 ans quand nous aussi, on a commencé à créer un parti politique à partir de pas grand-chose. C'est bien qu'une voix supplémentaire vienne expliquer, avec bon sens, porter une critique de l'Union européenne et pas de l'Europe. Une critique de la politique d'immigration sans être xénophobe. Mais le problème de M. Asselineau, c'est qu'il refuse bizarrement d'aborder certains thèmes. Il refuse de parler de la dette, il refuse de parler des questions énergétiques et il refuse de parler du problème de l'immigration. Donc j'ai l'impression que sa candidature, il l'assume comme une candidature de témoignage qui rassemblera quelques électeurs. En tout cas, nous, à Debout la France, on a une autre ambition. On veut vraiment passer de ces 3-4% que vous décriviez à 5, 6, 7, 8 pour arriver au second tour de l'élection présidentielle.
Damien Lempereur, porte-parole du candidat Nicolas Dupont-Aignan, merci d'avoir été l'invité de France Culture ce soir. Un mot de la météo. Demain, temps brumeux le matin et ensoleillé l'après-midi sur la plupart des régions. La grisaille persistera près de la Manche. Nuages également sur la région parisienne et les Hauts-de-France. Température maximale très douce pour la saison. De 13 à 16 degrés en général. Plus de 20 degrés sur les régions méditerranéennes. C'est la fin de ce journal préparé ce soir avec Annie Brault.